Suite de BFM Story et il est temps de continuer de débattre, bien sûr, c'est le Face à Duhamel. Avec ce soir Julien Aubert, vice-président des Républicains, ancien député, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Il y a une image que l'on retiendra aujourd'hui, celle d'un homme dans son bureau. Cet homme, c'est Éric Ciotti. C'est une vidéo qui a été postée, vous voyez, sur le réseau social Twitter. Il est arrivé dans son bureau aujourd'hui seul, alors que normalement, si l'on se fie à ce que disent les Républicains, il n'a plus à y être.
Oui, il faut préciser que la musique, elle vient de la vidéo, on ne l'a pas rajoutée.
Non, non, complètement. Donc Éric Ciotti, seul dans son bureau, un homme seul face à l'adversité, un homme seul dans son combat. On va aller aux Républicains, justement, retrouver Anne-Sora Dubois en direct pour BFM TV, parce qu'après être passé à son bureau, Éric Ciotti a déjeuné avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Anne-Sora Dubois.
Absolument, en présence de Marine Le Pen, tout à fait, déjeuner à trois. Et la prochaine étape maintenant, c'est le bureau politique des Républicains qui va se tenir dans moins d'une heure à 18h30 et qui doit entériner définitivement l'exclusion d'Éric Ciotti du Parti des Républicains. Un cadre du parti nous précise juridiquement ce soir et encore plus après ce déjeuner, Éric Ciotti est mort. Il ne pourra plus utiliser la marque des Républicains, ni son badge, ni sa voiture, ni surtout ses investitures en local. On va tout faire pour le bloquer par la voie judiciaire. Pendant ce temps, évidemment, Éric Ciotti, lui, continue de contester ses décisions et jusqu'à la validité de ce bureau politique. Information BFM TV, le recours qu'il a déposé devant le tribunal judiciaire de Paris sera examiné demain en urgence à 11h.
Voilà, Anne-Sora Dubois avec Jean-Baptiste Margotta. Ce à quoi on assiste, Alain Duhamel, c'est la mort des Républicains.
En tout cas, disons que le départ d'Éric Ciotti, surtout dans les conditions dans lesquelles ça se passe, qui sont quand même sans précédent. Le président d'un parti s'en allant et laissant ses troupes au début d'une campagne, je connais aucun exemple historique, ni de près, ni de loin, quel que soit le parti, en France en tout cas, avec qui ça se soit produit. Mais c'est évident que c'est un coup terrible. Commencer une campagne législative avec celui qui est le président de son parti qui s'en va, alors même que c'était leur meilleur débatteur, que c'était un négociateur d'ailleurs retors, mais un négociateur. Bon, et puis que c'était leur incarnation par la force des choses, même si c'était pas l'équivalent de ses prédécesseurs. Mais il n'empêche, c'était une personnalité. Il s'en va, on ne parle que de ça. Ça signifie que il trouve qu'en réalité, s'il fait ce calcul, c'est qu'il pense qu'en réalité, il n'y a plus d'issue autonome pour les Républicains. Et que les Républicains sont destinés soit à se fondre dans le Rassemblement National, soit pour une partie d'entre eux à rejoindre ce qui reste aujourd'hui de la Macronie, c'est-à-dire beaucoup moins depuis la dissolution. C'est une perspective qui, franchement, n'est pas une perspective très gaie. Et quand on regarde de près les sondages sur leur électorat, sur l'électorat LR, on voit qu'en fait, il est coupé en deux, qu'il y a vraiment deux blocs de même taille, les uns disant « oui, on est plus près du Rassemblement National », les autres disant « oui, on est plus près des macronistes », les premiers à cause de l'autorité, l'immigration, l'insécurité, les seconds à cause de la politique économique et sociale. Le résultat de tout ça, c'est que c'est une voie sans issue.
Pardon, mais Éric Ciotti vous a demandé de le suivre ?
Oui, moi, Éric Ciotti m'a proposé effectivement de faire partie de l'accord passé. De l'accord passé, le Rassemblement National. Et comme j'avais annoncé que je ne souhaitais pas revenir aux législatives, je n'ai pas donné suite à la proposition. Je lui ai dit d'ailleurs que j'aurais préféré, parce qu'il m'a dit on va gagner, je lui ai dit j'aurais préféré qu'on gagne aux européennes et que tu me proposes une place aux européennes, puisque j'avais été écarté de la composition de la liste. Mais pour rejoindre... Mais
est-ce que les ténors des LR ont eu raison de le virer ?
En fait... On se concentre sur la question juridique, alors que c'est une question éminemment politique.
Oui.
Dans le point positif, qui a été dit d'ailleurs par Alain, c'est que, pour la première fois, Éric Ciotti, président des Républicains, dit « Nous avons arrêté d'être un parti centre, nous sommes désormais un parti satellite, j'en tire les conclusions, donc je vais faire un accord avec le Rassemblement National. » La réalité, c'est que comme les députés sortants n'auront pas de candidat En Marche, il n'y a pas d'accord avec En Marche, mais de facto, c'est le fait de ne pas avoir de candidat En Marche qui peut assurer la survie d'une autre partie du groupe.
Ou en tout cas permettre.
Permettre. Et donc en réalité, se révèle un problème structurel, mais que je dénonce depuis 10 ans. C'est le parti unique. C'est le fait qu'en réalité, nous sommes implantés dans des territoires sociologiquement différents.
Mais il a raison ou il a eu tort ?
Il a raison pour les gens qui ont un RN à 40%. C'est-à-dire que si vous êtes député sortant ou candidat dans une zone où le RN fait 60 ou 5 ou 40, bah, si vous présentez avec l'étiquette LR seul, vous êtes perdant. Il a tort.
Donc c'est une histoire de calcul en fait, politique.
Moi, je crois, si vous voulez, oui. Non, mais parce que si
donc
vous voulez
il
les
doit
affaires
rester
de
et négocier ce
non,
qui se passe
je peux
au
dire,
cas par cas.
Tout de suite, vous passez. Non. Bah. Et ensuite, il a tort. Laissez-moi terminer. À Paris, où le RN fait 10% et où par conséquent, si vous faites ça, donc vous perdez l'électorat En Marche. Bon. Ce qui est dommage, c'est qu'on se concentre sur les juridiques.
Vous avec le RN ou pas, Julien Aubert, parce
que moi je pense que LR, non. Je pense, si vous voulez, que prendre tout seul la décision d'emporter tout le parti dans une alliance avec le RN, alors qu'on sait que notre électorat est divisé, c'était forcément créer les conditions de la scission. Après, je ne fais pas de jugement moral, parce que ce que je vous dis, c'est que dans des régions comme la mienne, un député sortant LR qui ne fait pas d'accord avec le RN, ça veut dire qu'il perdra, et qu'un candidat qui part seul, sans allié, malheureusement, ses chances sont très minces. Voilà. Donc, je peux comprendre, si vous voulez, des gens qui disent,
quelle peut être la stratégie permettant à LR de continuer à rester une force significative ? Parce que, en réalité, Éric Ciotti, pour ses amis, de LR, c'est une catastrophe. Mais il va en plus forcément entraîner une partie de l'électorat avec lui.
Oui, mais alors,
et il aura des candidats. Et puis, il aura des militants.
Dans 80 circonscriptions, oui. Mais bah en réalité, alors vous pouvez le voir d'un point de vue positif. C'est-à-dire qu'à la fin, vous pouvez avoir 40 sortants réélus, et vous pouvez avoir 40 députés sortis réélus, et donc les Républicains, au sens global, passaient à une représentation de 80.
Oui. Il y en a 40 qui sont pour une alliance avec Marine Le Pen et 40 qui sont contre une alliance avec Le Pen, ça fait pas un groupe homogène.
Non, mais ce seront deux groupes, c'est vrai. Mais fondamentalement, c'était des gens qui voisinaient avant et qui sont tous hostiles à Jean-Luc Mélenchon et à la coalition avec la gauche. Rappelons quand même. Deuxièmement, il y a aussi un aspect négatif, c'est que compte tenu des disputes qui ont lieu, vous pouvez aussi avoir des circonscriptions où vous avez deux candidats LR. Et donc, en réalité, même si vous avez des désistements d'En Marche ou du RN, à la fin, avoir deux morts. Mmh. Bon, c'est aussi une possibilité. Moi, je crois, si vous voulez, que dans cette affaire, il faut revenir à la structure, c'est-à-dire changer la structure des Républicains. Si on veut que le parti survive, il faut arrêter que le parti unique, aller plutôt vers une coalition de partis qui auraient des lignes différentes.
Deuxièmement, coalition avec qui ?
Une coalition sur le modèle de l'UDF, c'est-à-dire vous auriez...
Une
confédération.
C'est pas une coalition.
Oui, vous avez raison, une confédération, excusez-moi.
Une coalition, c'est avec un autre parti, confédération,
vous
c'est
avez raison.
Entre LR de gauche et LR de droite, ou LR du centre et LR de droite.
Je pense qu'on mélange deux choses, et je terminerai par ça. Il y a une différence entre se demander, dans le cadre d'une élection, deux coalitions avec qui on va faire un accord pour survivre, et après, il y a la question de participer à un gouvernement, c'est-à-dire de décréter que nos idées sont pareilles. À gauche, je note qu'ils ont fait la NUP, mais il n'est pas certain qu'ils gouvernent ensemble.
Jordan Bardella arrive à Matignon, vous pourriez gouverner avec lui ?
Moi, je pense aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies, non. Je pense que nous sommes d'accord sur des sujets migratoires, il y aurait sans doute des accords. L'immigration ne fait pas la politique de la France. D'ailleurs,
pourquoi vous êtes en désaccord ?
Non, mais attendez, la politique économique.
Oui, c'est vrai. C'est l'émission face à Duhamel.
Bah oui, alors que là, c'est face à deux très bons intervieweurs.
Allez-y.
Non. Mais dans tout ça, ce qu'on voit, c'est que le parti gaulliste, qui est quand même l'héritier d'un parti qui a donné que 4 des 8 présidents de la Ve République, etc., la majorité des premiers ministres, aujourd'hui, c'est un parti qui est coupé en deux, mais coupé en deux, si j'ose dire sincèrement. C'est-à-dire qu'il y a une partie de son électorat qui, en réalité, ne s'intéresse par priorité qu'à ce qui est économique, social, et qui est très proche des macronistes, et l'autre partie qui, en réalité, s'intéresse d'abord, et en particulier dans votre région, parce qu'il y a aussi des différences selon les régions, s'intéresse d'abord à ce qui est immigration et sécurité, et qui est plus proche du Rassemblement national. C'est-à-dire que les uns sont plus proches du Rassemblement national, les autres sont plus proches, disons, du centre, des partisans de l'économie de marché. Bon, et que tout ça, ça ne fait pas un parti homogène. Ça fait un parti qui se disloque.
C'est pour ça que nous avons testé, alors on va les appeler RPR, UDF pour schématiser, on a testé deux partis séparés, on a testé les deux tendances dans le même parti, ça marche si vous êtes aux affaires, mais dès que vous êtes dans l'opposition, vous ne savez pas quelle stratégie adopter. Et donc c'est pour ça que ça fait 10 ans que j'explique qu'il faut mettre fin au parti unique, à tirer les conclusions que nous sommes dans l'opposition, avec chacun combat, si vous voulez, celui qui met un mordre sur son
autrement
territoire.
Autrement dit, en clair, vous voulez, pour permettre aux Républicains de survivre, de les couper en deux.
Je de moins en moins nombreux.
Je pense, si vous voulez, que si on avait expertisé ma proposition il y a 8 ans, ça aurait, on aurait coupé et organisé, je dirais, une organisation duale sur 18%.
Oui, enfin,
aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée. Mais ce qui est en train de se passer, qu'on le veuille, mais non, parce que qu'on le veuille ou non, si on va au bout de la logique, si on va au bout de la dispute, ça se terminera par deux parties divisées.
Donc ça veut dire que c'est fini, parce que, pardon Alain, mais vous êtes déjà de moins en moins nombreux, vous allez sans doute perdre encore des postes de député, et vous voulez en plus diviser par deux ce qui reste.
Mais moi, je ne suis pas magicien, moi, je vous dis, il se trouve que ce qui se passe, c'est malheureusement ce que j'ai longtemps tenté d'expliquer, sans être jamais pris au sérieux.
Après, vous allez...
Donc, néanmoins, contrairement à certains observateurs, je pense premièrement qu'on va vers une situation chaotique. Soit chaotique au plan parlementaire, soit chaotique au plan économique et social.
Soit chaotique dans la rue.
Et je crois formellement que, passé cette période chaotique, un parti qui se sera refondé, qui aura une ligne claire, peut retrouver effectivement le chemin.
Puisque vous parlez de clarté, je vous propose d'écouter François-Xavier Bellamy, qui a eu le mérite de la clarté ce matin quand la question lui a été posée en cas de deuxième tour avec un bulletin RN et un bulletin Front Populaire.
J'aurais défendu les candidats de ma famille politique au deuxième tour. S'ils ne sont pas représentés et que je dois choisir, il est évident que je ferai tout. Je l'ai dit, je l'ai écrit dès le premier jour. Je ferai tout pour empêcher que la France insoumise n'arrive au pouvoir dans ce pays.
C'est-à-dire que vous voteriez pour un candidat du Rassemblement national face à un candidat
de la France
du Front
insoumise,
Populaire.
Évidemment, du Front Populaire.
Voilà.
Bon, ça c'est une position qui est extrêmement claire, mais qui ne m'étonne absolument pas. Ça ne m'étonne absolument pas. Bellamy a fait une campagne dont la deuxième partie était techniquement une bonne campagne. Le résultat a été arithmétiquement très décevant. Mais ce que la réalité, non seulement du tempérament politique personnel de Bellamy, mais même surtout ce qui est plus intéressant et plus significatif, de ses votes à Bruxelles, où c'est lui qui dirigeait, et qui dirigeait fermement, et d'ailleurs en travaillant beaucoup, la délégation des Républicains. Donc, qui engage à Bruxelles, il passait son temps à être le plus restrictif et le plus... Alors moi, je dis anti-européen, vous allez trouver un autre mot.
Mais réaliste.
Le plus quoi ?
Réaliste.
Oui, d'accord, voilà, le plus réaliste de votre point de vue, le plus anti-européen du mien, chacun son point de vue. Mais non seulement il était contre tout ce qui pouvait faire avancer, mais en plus, au sein même de son groupe, qui est le groupe dominant au Parlement européen, c'est-à-dire le groupe du PPE, du Parti Populaire Européen, c'est-à-dire de la droite, il était toujours en minorité par rapport à son groupe parce qu'il était toujours trop restrictif, etc. Donc, c'est assez logique que maintenant, ils prennent... Je termine quand même. Oui. C'est assez logique qu'ils prennent maintenant la direction, dans ce cas-là, de Marine Le Pen, puisque, en tout cas, en ce qui concerne la politique européenne, c'est la même.
Et vous faites quoi,
C'est pour ça que je préfère en tant qu'électeur qui est un candidat LR mais si vous y avez au second tour.
Mais il y aura des fois où il n'y aura pas le candidat LR.
Mais moi, je suis un homme de droite. Donc, au second tour, vous éliminez celui qui est le plus loin de vos positions. Je combats tout ce que porte LFI et je combats une partie de ce que porte le RN. Donc, effectivement, je fais le même choix. Comme, je pense d'ailleurs, des millions d'électeurs de droite qui nous regardent.
Et face à Renaissance, si c'est par exemple le Rassemblement National face à un candidat Renaissance ?
C'est plus compliqué. Mais parce qu'en fait, je regarderais plus la personnalité. C'est pas la même chose un Renaissance de gauche. Parce que vous avez des Renaissances de gauche, vous avez des Renaissances de droite.
Oui,
je voterais pas de la même manière, si vous voulez, si j'avais Darmanin Briouat, que si j'ai Dupond-Moretti et voilà. Donc, vous avez quand même la personnalité du candidat. Maintenant, j'appartiens à l'aile droite des Républicains, donc auparavant, ça dépend aussi parce qu'auparavant, je me serais abstenu. Mais néanmoins. J'ai fait par le passé.
Darmanin s'abstient, par exemple.
Mais néanmoins, aujourd'hui, dans le cadre de cette élection législative, où il y a un risque d'arriver au pouvoir d'une coalition avec un parti que je juge antisémite, que je juge dangereux, wokiste, dont qui pour moi combat tout ce, enfin, et détruit tout ce que je respecte, eh bien, à un moment donné, il faut faire des choix. Au second tour, j'élimine.
Ça veut dire qu'Alain Duhamel, il y aura sans doute effectivement des second tours LFI RN, et donc
ça risque même d'être les plus nombreux.
L'électorat de droite, et je veux dire même l'électorat de droite modéré, ne jouera pas le Front républicain.
Non.
Le vote anti-barrage au Rassemblement national, comme ça pouvait être le cas auparavant.
Alors, attendez, le réflexe du Front républicain, qui d'ailleurs est largement disparu, mais le réflexe du Front républicain.
C'est plutôt du côté de la gauche.
C'est pas
quand la gauche vote Macron contre Marine Le Pen.
Voilà. Bon, c'est quand même quelque chose de différent.
Mais moi aussi, je fais le Front républicain. Je suis prêt à voter socialiste plutôt que LFI.
Ah oui.
Mais le type de gauche qui dit moi je préfère voter LFI.
Socialiste contre le RN, vous votez le RN quand même.
Pardon ?
Socialiste contre RN, vous votez RN.
Oui, ça nomme oui.
Merci Julien Aubert, merci Alain Duhamel.